vente dans 15 pays d'Afrique, Suno Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Sandrine Mercier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Priorité Santé, ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, on dit stop aux violences sexuelles sur les femmes. C'est un mouvement planétaire, des actrices, des chanteuses, des militantes ont été désignées personnalités de l'année 2017 par le magazine américain Time. Celles qui ont brisé le silence en dénonçant les crimes et agressions sexuelles. Cette parole libérée, on peut le dire, a vraiment été le fait marquant de l'an passé, qui a d'ailleurs poussé fin novembre le président français Emmanuel Macron à ériger l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause nationale de son quinquennat. Une loi attendue, des mesures promises et les pouvoirs publics interpellés par les acteurs associatifs, médecins, juristes. Des acteurs de cette lutte contre les violences sexuelles se sont réunis ces deux derniers jours à Paris. C'était au Sénat dans le cadre des 5e assises nationales de l'association Stop aux violences sexuelles. Et pour débattre et rendre compte de ces crimes et agressions qui constituent aussi une question de santé publique, eh bien une thématique a été mise en avant, sortir enfin de l'alibi culturel des violences sexuelles. C'est un sujet que nous abordons donc aujourd'hui avec le docteur Violaine Guérin. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, un peu fatiguée après ces assises.
Et oui, c'était intense.
Oui.
Vous traversez en ce moment une période effectivement très très effervescente. Vous êtes gynécologue et endocrinologue, présidente de l'association Stop aux violences sexuelles, donc qui a organisé ces assises. Et vous êtes à l'origine, vous, de cette association. Pourquoi?
Eh bien, il y a une ampleur de dégâts effectivement qui est en train d'être découverte avec cette ouverture de parole planétaire. Et quand on a donc conscience de cette ampleur numérique et également de la gravité des complications médicales dont on va peut-être parler, eh bien, on ne peut pas rester sans rien faire.
Vous avez effectivement mis une grosse partie de votre énergie dans cette association. Et votre dernier ouvrage publié chez Tan et Myrte édition s'intitule « Pédophiles et autres auteurs d'agressions sexuelles, pourquoi et comment soigner ?» Et Tan et Myrte, alors ça veut dire « merci » en tamashek. Hein.
Exactement.
Ouais. Vous avez choisi ce nom
parce que
vous avez envie de dire merci.
J'ai passé un peu de temps avec les Touaregs et effectivement j'y ai appris tellement de choses que ça fait du sens de dire merci.
Et en direct de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, nous avons Stéphanie Mulot. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous.
Alors, merci d'être avec nous en direct. Hein. Vous venez de traverser à nouveau l'Atlantique, hein, puisque vous étiez, vous, aux Assises. Hein. Vous y avez participé en tant que professeur de sociologie et d'anthropologie. Vous êtes basé à l'université Jean Jaurès à Toulouse, mais vous êtes en ce moment en mission pour le CNRS à Pointe-à-Pitre. C'est pour ça qu'on vous attrape là-bas. Et vous, donc, vous avez, pendant ces Assises, justement, mis l'accent sur cet alibi culturel, hein, ces traditions, justement, qui n'ont pas que du bon.
Oui, tout à fait. C'est toujours important de restituer les violences sexuelles dans les différents niveaux qui leur permettent de survenir. Donc on a un niveau individuel, un niveau relationnel, un niveau social, et un niveau culturel, et ensuite un niveau politique et juridique. Et donc moi j'étais venue aux Assises pour parler justement de cette dimension culturelle.
Et on va effectivement l'éplucher tout au long de l'émission, voilà. À vous rester avec nous. Pour ceux qui ont déjà entendu dire, par exemple, si tu tapes bien ta femme, elle va te respecter. Alors, comment changer les mentalités? Nous irons aussi au Sénégal avec Sérine Morbaye, qui est psychologue et directeur du centre de guidance infantile familiale à Dakar. Nous y serons dans 20 minutes après le flash. Violences sexuelles, violences conjugales, féminicides. On terminera l'émission avec la marche organisée aujourd'hui à Montreuil, près de Paris, 10 jours après la mort de Mariama K, qui a été tuée par son mari. Et il y a une mobilisation silencieuse dont on parlera avec Ernestine Ronet, qui est responsable de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Vos numéros, notre numéro de téléphone pour réagir ou poser vos questions. Si en tant que femme, vous avez subi des violences sexuelles, comment vous avez traversé tout cela? On vous attend 33 1 84 22 75 75 et sur notre page Facebook.
RFI.
Violences sexuelles, on est en train de sortir du tabou, docteur Violaine Guérin.
Clairement, on est en train d'ouvrir la parole et ça c'est indispensable, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de travail. Et puis il faut aussi positionner le sujet correctement, c'est-à-dire ne pas oublier les violences faites aux enfants et donc les violences aussi faites aux hommes, puisque les hommes souvent sont touchés dans l'enfance.
Et c'est ce qui fait que plus tard, ils pourront avoir des comportements effectivement violents avec les femmes.
Oui, tout à fait. Et puis l'autre sujet aussi qui est encore un peu tabou dans ce cadre des violences sexuelles, ce sont aussi les violences faites par les femmes qui peuvent être elles-mêmes aussi auteurs d'agressions sexuelles. Donc ce qui est très fondamental, c'est de prendre le sujet dans sa totale globalité pour qu'on puisse avancer tous ensemble et sans opposer en permanence hommes et femmes. Il faut que tous on s'y mette. Et voilà, c'est vrai que c'est joyeux cette ouverture de parole planétaire quelque part. Quand on dit joyeux, parce qu'on commence enfin à dimensionner le sujet, donc on va pouvoir mieux s'y attaquer.
Alors dans le monde, près de 750 millions de femmes et de filles actuellement en vie ont été mariées avant l'âge de 18 ans, et c'est souvent de force d'ailleurs, ce qui entraîne beaucoup de violence. Alors on va écouter deux témoignages bouleversants, on ira au Niger avec Charlie Dupiot, mais tout de suite c'est un interview qu'on a fait hier par téléphone pour avoir Marie qui a 15 ans, qui a été mariée de force depuis 2 ans, au Tchad, nous sommes, et c'est un témoignage recueilli par Raphaël Constant.
L'homme à 40 ans était l'ami à mon papa. L'âge légal de mariage pour une fille est de 18 ans dans mon pays. Au Tchad, on m'a forcé avant l'âge. Cet homme que je n'ai aucun sentiment pour lui me torture. Il m'attache avant de coucher avec moi. Parfois, il me frappe. Mais personne pour me défendre, ni mes parents, ni les autorités. Et j'ai peur de demander sous influence de ma tradition. C'est pourquoi je continue de vivre dans ce calvaire et l'enfer.
Est-ce que vous êtes tombée enceinte suite à ces rapports sexuels avec votre mari?
Non, pas encore.
Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un de ces violences sexuelles, Marie?
J'ai parlé à mon grand frère.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit, votre grand frère?
Il m'a dit de supporter. Je ne veux pas qu'il fasse le rapport sexuel avec moi. Et pour lui, c'est la force. Mon mari, il me tape à chaque fois, surtout au moment du rapport sexuel. Il me torture.
Et est-ce que vous avez pu aller voir un médecin après ces violences sexuelles?
Non, non, non. Il n'y a pas de moyen.
Et est-ce que vous avez été blessée à cause de ces rapports sexuels forcés?
Oui, j'ai beaucoup blessé. Au niveau de mon vagin, il y a des blessures partout dans mon vagin.
Ça veut dire que vous saignez, ça veut dire que vous avez mal, c'est ça?
C'est ça, oui.
Est-ce que vous avez la possibilité de quitter votre mari, de partir?
Il n'y a pas la possibilité. Moi, je vais partir, mais je ne sais quoi faire.
Alors, quand on entend effectivement ce témoignage, hein, il faut supporter, dit le frère, accepter. Au nom de quoi, Stéphanie Mulot, vous êtes sociologue, vous avez travaillé sur ces questions?
Alors, je connais pas l'exemple de cette personne qui témoigne et qui est très courageuse de témoigner, mais ce qu'on entend dans son témoignage, c'est évidemment le poids non seulement de la tradition. Ce qu'elle dit, hein, c'est la tradition, les mariages forcés, on lui a choisi un mari, elle n'avait pas son mot à dire. On entend le poids de la famille, puisque bon, la famille a choisi, mais le frère en plus vient redire à quel point ben voilà, c'est nécessaire. Et en fait, on voit bien que dans cette histoire, ce n'est pas la femme qui a son mot à dire, ce n'est pas ce qu'elle vit, ce n'est pas son vécu qui compte, c'est le maintien d'une organisation familiale. Là, on peut imaginer que avec cet homme, s'est créée une alliance entre deux familles, donc il y a des intérêts pour les familles que cette alliance soit maintenue, et du coup, la vie de la femme, son corps, sa santé sont sacrifiés sur l'autel de cette organisation, de cette alliance. Donc ce qui est justement important de souligner d'un point de vue anthropologique, c'est que on va trouver tous les moyens culturelle, en l'occurrence politique, socio-économique, de justifier le crime, parce qu'il s'agit là d'un crime, hein. Cette femme, elle est torturée, elle est maltraitée, elle est violentée, donc d'un point de vue, alors peut-être pas de la législation locale, mais on voit bien que c'est un crime, et donc on a toutes les justifications possibles pour le maintenir dans quelque chose de normal. Et c'est ça la difficulté, et c'est une violence supplémentaire. C'est-à-dire que non seulement elle est maltraitée, mais en plus elle n'a même pas le recours pour faire valoir des droits, pour dénoncer cette agression qu'elle se subit chaque jour.
jour.
Donc alors, elle est plus, complètement prise au piège, effectivement, prise au piège de cette tradition, elle ne peut pas en sortir, elle le dit, aller où, faire quoi, et sa santé est gravement atteinte, docteur.
Alors, après,
elle parle de lésions et effectivement, ça sont déjà les dommages immédiats. Mais j'espère que Marie pourra un jour rencontrer des personnes qui vont vraiment prendre soin d'elle, parce que on s'aperçoit quand on n'est pas soigné qu'on risque de développer des pathologies plus tard. Et puis bien entendu, psychologiquement, c'est extrêmement difficile.
Stéphanie Mulot.
Oui, il me semble aussi que dans son cas, il y a deux choses. Un mariage forcé peut se passer bien. C'est-à-dire que là, il y a en plus la dimension de l'agression, de la torture, de la violence. Je suis pas sûre que la tradition suppose que ça se fasse en plus dans ce type-là de violence. Donc, ce qu'il faudrait peut-être conseiller à cette femme, et visiblement c'est très difficile, mais de trouver un soutien, un relais, peut-être une association, peut-être sortir de la famille pour trouver une association. Et puis moi, ce que j'ai envie de dire en tant qu'anthropologue, c'est qu'on est dans un exemple type où la culture est utilisée comme un outil de domination. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte quand même que, et c'est ça que j'appelle l'alibi culturel, sous prétexte de tradition, sous prétexte de culture, sous prétexte d'habitude, en fait, on maintient là, en l'occurrence, les femmes dans une situation d'assujettissement, d'exploitation et de domination qui vise à maintenir les privilèges des hommes et des familles derrière qui s'organisent pour cette alliance.
Mais alors, cette violence, effectivement, là, qui est caractéristique de Marie et qui va très très loin, hein, mais c'est quand même admis culturellement, je dirais presque partout sur la Terre, même chez nous, où l'homme est conquérant, et la femme est soumise, la femme est un objet sexuel de l'homme, ça c'est communément, on va dire, accepté. C'est ce qui peut entraîner de telles violences, docteur.
Oui, il y a une ouverture planétaire, et ça c'est important, mais effectivement, il va falloir aussi regarder presque pays par pays, culture par culture, cette couche d'analyse que souligne Stéphanie Mulot, justement, qui va faire que le travail va être difficile, parce qu'il va falloir analyser région par région l'impact des religions, l'impact de la culture d'un pays. Donc le travail à faire, il va être, va y avoir des couches communes, on va dire, de travail, mais également toutes ces analyses vont être importantes, et il faut vraiment aujourd'hui s'attaquer à déconstruire justement ces habitudes. Hein, par exemple, on travaille sur l'île de la Réunion aussi, et il y a une tradition qui est le cododo systématique des parents et des enfants dans les lits. On met les enfants dans les lits des parents, dans le lit conjugal. Eh bien, ce genre d'habitude, il faut l'analyser en fait aujourd'hui, peut-être différemment.
Alors, on va partir là au Niger, puisque dans ce pays, 3 femmes sur 4 aujourd'hui âgées de 20 à 24 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Et donc, près de la moitié d'entre elles avaient déjà eu un enfant avant leur majorité. Et là, on est vraiment dans la région du sud du pays, la région de Maradi. C'est celle où le taux de mariage des enfants est le plus élevé. Et là, on va avoir le témoignage d'une femme qui a pu s'échapper. C'est Charlie Dupiot qui l'avait rencontrée. Et une partie de ce témoignage avait déjà été diffusée dans l'émission du 23 octobre dans Priorité Santé.
Mes parents n'ont pas voulu que je sache qu'un mariage avait été célébré en mon nom et en mon absence. Je ne sais même pas quand ils ont organisé la cérémonie. On m'a juste dit, tu vas rejoindre ton mari ce soir. Et on m'a emmenée à cheval dans la famille de mon mari, dans un village voisin à quelques kilomètres du mien. À l'époque, je n'avais pas de sein. Je n'avais même pas encore mes règles. On m'a fait rejoindre mon mari. Et là, on m'a attaché les mains et les pieds avec un fil de fer au pied d'un lit méchamment, comme si j'étais un animal, une chienne. On m'a frappé avec une chicotte et vous voyez, jusqu'à présent, j'ai encore des cicatrices sur mes chevilles. Ce sont les amis de mon soi-disant mari qui m'ont fait ça. Ils m'ont attaché parce qu'ils voulaient que mon mari me viole pour lui permettre de consommer le mariage. Je n'avais pas été préparée à ça. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un homme, encore moins le sexe et les relations sexuelles. Chez nous, c'est un sujet tabou. On n'en parle jamais. Et tenez-vous bien, j'avais mis 5 culottes, justement parce que j'avais peur d'être violée. Ils ont commencé à m'enlever les culottes l'une après l'autre, mais moi je résistais, je criais, je pleurais, j'en ai même mordu certains pour qu'ils arrêtent. Ils étaient 5. 4 de ses amis et son grand frère. Et c'était son grand frère qui insistait pour me retirer mes culottes, pour que mon mari puisse me violer. S'il me violait, alors il avait la garantie que je reste au foyer.
Pourquoi ?
Parce que la virginité a une valeur chez nous. Si une fille n'est pas vierge, elle est une proie facile pour les hommes. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré fuir, pour préserver ma dignité. Comme je gesticulais dans tous les sens, mon mari m'a laissé me calmer un moment, pensant qu'une fois de retour, il allait coucher avec moi. Ses amis aussi sont partis. Quand j'ai été seule, j'ai coupé le fil de fer avec un couteau qu'ils avaient laissé là, à côté de moi. Ils m'avaient menacée avec ce couteau en me disant « Si tu n'acceptes pas de coucher avec moi, on va te tuer ».
Vous avez fui ? Vous êtes parti où ?
Je suis partie à Niamey parce qu'à Niamey, on m'a dit qu'il y avait des organisations qui aidaient les filles à se sortir d'une situation de violence ou de mariage forcé. Alors j'ai pris la fuite ce soir-là. Il était 19h, j'ai marché jusqu'à atteindre le goudron au petit matin. C'était loin. J'ai pu payer le transport jusqu'à Niamey grâce aux habits neufs donnés pour mon mariage. À Niamey, je suis allée toquer à la porte d'une femme chez qui ma mère avait travaillé comme bonne. Tout de suite après mon arrivée chez elle, elle m'a conduite à l'hôpital pour que je sois examinée. Elle a soigné mes pieds qui étaient enflés à cause de la marche et du fil de fer. Elle a eu pitié de moi. Elle m'a même donné des habits pour que je me change. Et puis, j'ai pu me rendre dans les locaux de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences. Aujourd'hui, grâce à l'aide de l'ONG, je ne suis plus dans une situation précaire. Je travaille même pour eux comme femme de ménage. Je mange bien et je suis à l'aise.
Alors avec ce témoignage poignant de cette jeune femme, c'était une enfant, une ado quand tout ça s'est passé, elle a eu la force et la chance aussi d'en réchapper et de trouver de l'aide en marchant jusqu'à Niamey. Stéphanie Mulot, on voit bien là à quel point il y a un mépris total de toute la société pour le droit tout simplement de dire non et de légitimer aussi ces pulsions violentes, naturelles de l'homme.
Alors, je sais pas, enfin, cet exemple est évidemment terrifiant comme le précédent parce qu'on est dans des formes de, non seulement de violence, mais il y a quelque chose qui ressort aussi de l'esclavage, moi je trouve, là, de priver les personnes de leur liberté pour les soumettre à des actes sexuels. En même temps, je ne sais pas si le futur mari de cette femme était dans des pulsions violentes, enfin, je sais pas si c'est ça qu'il y a derrière, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que cette femme, elle avait été informée de l'existence d'ONG. Et donc, il faut souligner qu'il y a toujours des gens, dans toutes les sociétés, il y a toujours des gens qui viennent de l'étranger ou qui soient de la société locale, qui sont opposés à ce genre de choses. C'est-à-dire qui ont conscience que ça va pas, y compris les femmes qui l'ont déjà vécu. Et donc, il faut s'appuyer aussi sur ces acteurs-là, sur ces personnes-là, pour dénoncer et pour aider les victimes. Et en plus, pour travailler sur le fait que, non, il n'y a pas des pulsions, il n'y a pas des pulsions du côté des hommes, il faut arrêter avec ça. L'idée que les hommes auraient des besoins beaucoup plus forts que les femmes, l'idée que les hommes auraient des besoins naturels, sexuels, irrépressibles, non. Et puis, il faut arrêter aussi d'organiser ces viols-là parce que c'est faux et ça, c'est aussi mettre les hommes dans une vision d'eux-mêmes et dans des pratiques sexuelles qui les déshonorent eux aussi. Il faut arrêter de penser que ce sont les femmes qui sont déshonorées par ça. Les hommes sont ça ne les grandit pas, hein, de pratiquer ce genre de choses. C'est pas une ode à la masculinité, hein. C'est pas une fierté pour la masculinité, pour la virilité. Faut arrêter de penser que la virilité passe par ce genre de pratiques de domination et d'exploitation sexuelle des femmes.
Mais c'est alors comment ça, on fait pour déconstruire tout ça?
Oui. Eh bien, oui, moi je pense que déjà il faut que, au niveau planétaire, tout le monde ait la conscience de la gravité de ces actes et des répercussions.
C'est pour ça que c'est très fort d'entendre ces témoignages, voilà, effectivement, de libérer cette parole. Alors on va continuer dans la deuxième partie, comment lutter effectivement contre ces violences, arrêter la maltraitance, c'est possible, en tout cas ce n'est pas une fatalité. Vos questions 33 1 84 22 75 75, on continue dans 3 minutes avec vous, docteur Violaine Guérin de Stop aux violences sexuelles et Stéphanie Mulot, sociologue. On vous retrouve toutes les deux après le flash dans 3 minutes.
Priorité santé, Sandrine Mercier.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans Priorité Santé. Aujourd'hui, la parole se libère sur les violences sexuelles faites aux femmes. Les chiffres sont marquants. Hein. Selon les estimations, 35% des femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles à un moment donné de leur vie. Mais ça peut monter carrément jusqu'à 70% dans certains pays, avec des conséquences sur la santé, plus d'avortements, de dépression, plus de risques aussi de contracter le VIH. Mais ce n'est pas une fatalité. Comment arrêter ces maltraitances? Comment changer les mentalités afin de sortir de l'alibi culturel? Et comment mieux lutter contre ces violences? Et comment protéger les victimes? Aussi, beaucoup, beaucoup de questions. Ça a été le sujet des 5e assises nationales de l'association Stop aux violences sexuelles qui ont eu lieu les 8 et 9 janvier. C'était au Palais du Luxembourg à Paris. Docteur Violaine Guérin, vous étiez là-bas en tant qu'endocrinologue et gynécologue et présidente de l'association Stop aux violences sexuelles. Vous avez d'ailleurs lancé une stratégie de santé publique. Votre dernier ouvrage, je vais parler de celui-là, « Comment guérir après des violences sexuelles » aux éditions Tannemyrte. Et on va parler des mots aussi. Il y a Stéphanie Mulot aussi qui est avec nous, professeure d'université en sociologie et anthropologie, actuellement en délégation au CNRS à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et avant de partir à Dakar, on va parler des mots, parce qu'on a entendu les reportages tout à l'heure vraiment sur ces violences sexuelles, c'était très fort, mais on a l'impression qu'en France, docteur Violaine Guérin, les mots ne sont pas vraiment posés.
C'est exactement ça.
Que les femmes vivent.
Oui, on a du mal à comprendre que c'est grave, puisqu'on pose des mots comme caresse, chatouille, grivoiserie, là où il faut poser les mots de violence sexuelle, d'agression sexuelle, de viol. Et c'est vrai qu'en France, on est un peu les héritiers des années 68-70, où il y a beaucoup de libéralisation, entre guillemets, de la sexualité, mais qui nous impacte aujourd'hui encore, puisque l'historienne, Anne-Claude d'Ambroise Rendu pose carrément les mots la plaidoirie pédophile des années 70 et on est encore un peu dans ce sujet. On a du mal à voir la violence sexuelle en France.
Stéphanie Mulot aussi, dans cet alibi culturel, les mots ont leur sens.
Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant justement, c'est de voir aussi... Oups.
Tout va bien, restez avec nous depuis Pointe-à-Pitre.
Il y a un petit accident à côté de moi, pardon. Oui, excusez-moi. Oui, les mots ont leur sens. Et puis, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on banalise les violences sexuelles, alors surtout les violences envers les femmes, et comment on les banalise au motif que, oui, enfin, il n'y a pas mort d'homme, vous savez, c'est pas grave, t'es pas la première à qui ça arrive, et puis t'es pas la dernière, et puis, bon, faut savoir accepter, et puis... Oh, tu devrais t'estimer heureuse quand même qu'il t'ait dragué, qu'il t'ait fait des propositions, c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, vous voyez comment on relativise tout le temps ce qui se passe. Et en fait, par un certain nombre d'expressions qui sont dans la culture ambiante, on fait croire aux femmes que ce qui leur arrive est normal, et du coup on les maintient dans le silence. Alors les femmes ou les hommes, donc les garçons, les enfants aussi, on les maintient dans le silence et on entretient cette culture du silence autour des violences sexuelles. Et je pense que justement en ce moment, ce qui est important, c'est de sortir du silence pour nommer tout ce qui se passe et changer aussi le vocabulaire. Les mots sont performatifs. Donc non, c'est pas de la drague, c'est du harcèlement sexuel. Non, c'est pas juste une attention sexuelle, c'est un viol, c'est une agression. Enfin, voyez, et comment remettre aussi les mots dans le cadre juridique qui les définissent et qui du coup les sanctionne.
Oui, moi je souligne qu'en France, on a en français une belle expression qui s'appelle qui ne dit mot consent. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup du problème du consentement. Ben voilà, ça aussi c'est un exemple de mots et d'imprégnation qu'on a dans nos cerveaux qu'il faut changer.
Et ces mots peuvent aider aussi à vraiment prendre conscience de la violence que les femmes vivent eux-mêmes, puisque souvent elles sont aussi dans le déni de ce qu'elles ont vécu elles-mêmes. Alors on va tout de suite partir avec Sérigne Mormbaye, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct depuis Dakar au Sénégal. Vous êtes psychologue et directeur du Centre de guidance infantile familiale. On est ravis d'avoir un expert avec vous, avec nous en appui psychosocial sur toute l'Afrique. Vous menez, vous, des combats justement contre ces violences et c'est pas toujours bien vu parce que là, vous venez de nous envoyer vos locaux ont été attaqués aussi. Donc ça veut bien dire que ceux qui défendent ces causes-là, comme vous êtes aussi menacés, intimidés. Racontez-nous ce qui vous arrive, Sérigne.
Ce qui nous est arrivé, c'est que depuis trois décennies, nous travaillons sur l'ensemble du territoire du Sénégal à travers des observatoires. Et l'un des observatoires qui est à 70 km de Dakar a été attaqué dans la nuit du vendredi au samedi. Et ils ont volé tout le matériel et mis le feu avec un cocktail Molotov. Voilà. Mais nous étions quelque peu prévenus parce que nous avons subi, l'année dernière, nous avons été victimes de menaces par téléphone. Voilà, c'est ça qui nous est arrivé.
Donc c'est bien pour dire à quel point, effectivement... Oui, docteur, vous voulez réagir, Violaine.
Je veux réagir parce que vous posez une excellente question. Alors effectivement, là, il y a un exemple de malveillance, mais il y en a partout, et même au niveau de de l'État. Des hauts niveaux de l'État dans les institutions, il y a y compris en France des personnes effectivement qui sont carrément auteurs d'agressions et qui verrouillent les institutions, qui verrouillent l'avancée des propositions de loi, etc. Et là, ce qui est joyeux aussi dans cette ouverture de parole, c'est que les citoyens de la planète vont se connecter les uns les autres, et ça va mettre une barrière effectivement à ces actes et à ces gens qui n'ont pas envie sur la planète que le sujet bouge.
Oui, parce que vous sentez, vous, effectivement, des freins dans la société pour que ces questions bougent.
Oui.
Oui, c'est pour vous, hein, Sérigne Morbaille, pardon,
oui,
à Dakar.
Oui, je pense que les choses bougent parce que nous commençons par des programmes de prévention et nous cherchons à déconstruire à travers nos discours, parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des productions idéologiques qui passent à travers les médias et qui, en fait, valide, légitime la violence faite aux femmes. Et ça aussi, si les pouvoirs publics ne censurent pas ces productions idéologiques, il va falloir que ça va devoir continuer. Parce que lorsque vous parlez d'alibis culturels, nous écoutons dans nos radios, dans nos télévisions, des discours qui vont dans le sens de consolider ce qu'ils appellent en fait la culture et nos traditions, alors que nous sommes en Afrique ici dans une confusion totale. Ils savent plus ce qui est tradition et ce qui ne l'est pas. Et pourquoi? Parce que nous avons été minés par des facteurs exogènes qui sont venus configurer de nouvelles attitudes, configurer de nouveaux comportements, changer les rôles et les statuts, de telle sorte que, du point de vue idéologique, ce qu'on entend, le modèle idéologique dominant, la parole dominante, et légitime la violence faite aux femmes.
Mais alors, est-ce que vous savez, par exemple, pourquoi les hommes battent leurs femmes en Afrique?
Mais on le sait, parce que tout simplement, ils ont été éduqués dans ce machisme qu'ils sont, l'homme est comme une projection orthogonale de Dieu sur Terre, et la femme est éduquée dans une passivité, dans le silence, et même, je dirais, dans la complicité, parce que quelque part, c'est les femmes qui éduquent. L'homme nègre d'Afrique est en puissance de femme. Les femmes sont dans toute la vie quotidienne, c'est elle qui gère la vie, la mort, le travail, les solidarités, et cependant c'est elle qu'on violente. Et pourquoi? Parce que il y a une modification du schéma idéologique, parce que dans cette Afrique traditionnelle du 12e, 13e siècle est née la première convention relative aux droits de l'homme, et le sort qui est fait aux femmes est meilleur que ce que la femme vit aujourd'hui en Afrique. Donc, nous sommes dans un contexte où il n'y a pas de projet de société, où tout va à volo, où les élites politiques aussi ne se réveillent pas à une chose, c'est que sans les femmes qui produisent 70% de l'agriculture africaine, c'est l'effet des femmes. Et que ces élites politiques-là ne comprennent pas que c'est un coût économique et social qui contrarie tout projet de développement. Donc, pour notre part, nous développons des programmes de prévention sur l'ensemble du territoire. J'entendais tout à l'heure le témoignage de cette femme du Niger. Nous, on est quotidiennement confrontés à des milliers de femmes victimes de violences sexuelles, mais victimes aussi de mariages précoces à 11 ans, 12 ans. Ces pratiques-là n'ont rien à voir avec nos traditions africaines. C'est venu avec le temps de la confusion et le temps aussi où les statuts et les rôles sont complètement inversés, où de nouvelles idéologies sont venues légitimer la violence. violence.
Mais alors pourquoi, à votre avis, les femmes reproduisent les violences qu'elles ont vécues enfant ou pourquoi ça continue?
Mais ça continue parce qu'elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes. Ce que je dis, conscience d'elle-même, il faudrait aujourd'hui travailler à amener les femmes à l'école, parce que l'école laïque et démocratique permet une distanciation, permet un esprit critique qui leur permet d'être subversives, parce que il faut que les femmes subvertissent, je dirais, déconstruisent, prennent conscience d'elles-mêmes. Mais lorsqu'elles restent dans le schéma idéologique, elles sont préparées à la passivité et au silence.
Alors, docteur Violaine de Guérin a envie de réagir effectivement sur pourquoi les femmes continuent de générer ces violences en étant elles-mêmes adultes.
Oui, des femmes ou des hommes, parce qu'en fait, quand on est un enfant, on a un cadre de référence qui est notre cadre éducatif. Et si justement on n'est pas allé à l'école, ou si l'école ne fait pas le travail, parce qu'en France c'est pareil, on n'a pas d'éducation à ces cadres de référence sains, et bien quand vous êtes adulte, vous reproduisez. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles en France, hein, on a encore 75% facilement d'inceste. C'est ce problème de cadre de référence qui sont à travailler dans les éléments de prévention, c'est absolument fondamental.
Stéphanie Mulot, vous avez envie de réagir, effectivement. Donc là, les femmes sont victimes, se retrouvent bourreaux, les hommes aussi sont victimes et se retrouvent aussi bourreaux, c'est ce qui se passe.
Alors, en fait, je trouvais le témoignage de monsieur là tout à fait fondamental, parce qu'il insiste bien sur le fait qu'il y a une responsabilité politique dans ces violences sexuelles, et qu'on fait porter à la culture un rôle de légitimation de pratiques qui devrait être dénoncé et changé par des actes politiques et juridiques forts, et en l'occurrence qui n'existent pas. Pourquoi les femmes reproduisent aussi ce qu'elles ont vécu? C'est parce qu'il faut comprendre que on n'a pas forcément la conscience de soi-même quand on est dans un système qui, en fait, produit une idéologie de la domination. Et c'est ça qui est derrière. Ce qu'on appelle culture, même si j'entends que ce n'est pas la culture fondamentale, que c'est des choses qui ont été rapportées, c'est des choses qui ont été perverties, modifiées, mais néanmoins, des régimes de légitimation, c'est-à-dire les outils idéologiques que l'on utilise pour justifier ces pratiques, visent à convaincre les dominés du bien fondé de leur assujettissement. Partout, la culture est là pour convaincre les victimes que leur situation est la seule chose qui puisse leur arriver, est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Et du coup, une fois adultes, ces victimes participent elles-mêmes à la reproduction du système qui pourtant les assujettit en élevant les enfants de cette façon.
Mais est-ce que ça peut changer, par exemple, si la violence est condamnée par la loi? Est-ce que ça change tout?
Non, mais tout à fait. Par exemple, je prends l'exemple de l'excision. On dit souvent, on trouve à l'excision plein de justificatifs, on dit que c'est hygiénique, que c'est pour préserver la virginité des femmes, pour contrôler le désir sexuel des femmes, pour qu'elles soient respectées, enfin qu'elles trouvent une respectabilité morale. Or, en l'occurrence, ce qu'on dit aussi, c'est, vous voyez que c'est pas une violence faite aux femmes, puisque les femmes aussi la pratiquent, et que les femmes elles-mêmes veulent exciser leurs filles. C'est un argument qu'il faut battre, mais qu'il faut dénoncer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on convainc les femmes, depuis qu'elles sont toutes petites, que c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver, et on le fait dans un cadre où il n'y a pas de loi pour s'y opposer, et on convainc les femmes que du coup c'est ce qu'il faut qu'elles reproduisent sur leurs propres femmes. Ce faisant, qu'est-ce qu'on fait? On maintient les privilèges des hommes. Or, je veux rappeler que, par exemple, au Burkina Faso, à l'époque Haute Volta, Thomas Sankara, qui était un homme éduqué, qui est devenu président, a dénoncé et a fait interdire l'excision en disant lui-même que c'était une exploitation et une expression de la domination masculine par le contrôle du corps des femmes. Donc ça veut dire que c'est la loi qui est venue mettre un terme à ça, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont compris que ça n'allait pas et que du coup on peut éduquer autrement. Donc il faut aussi impliquer tous les outils, tous les dispositifs d'éducation dès l'école maternelle, dès les premiers moments, et changer ces représentations culturelles des rapports de genre, en fait, et du rapport au corps des enfants et du rapport au corps des femmes et des hommes.
Alors merci effectivement pour cette explication en profondeur, hein, qui va aussi toucher, je pense, Sophie là, qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun et qui veut témoigner, puisque Sophie a un mari effectivement qui la viole en ce moment. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci beaucoup, hein, de nous appeler et de vouloir témoigner. On vous écoute, Sophie.
Voilà, alors comme je disais, moi par contre, je suis allée à l'école, j'ai une maîtrise et je suis cadre dans une entreprise de la plage. Je me suis mariée à 30 ans et actuellement j'en ai 37. Donc depuis que je suis mariée avec mon mari, les viols toutes les nuits, c'est vraiment, je sais pas comment je peux dire. Au début, quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient non, tu peux laisser tomber, tu peux l'excuser. Regarde ce que vous avez investi, mais malgré ma situation intellectuelle et tout, je subis ça dans mon mariage et puis tout le monde autour de moi me fait comprendre que c'est normal, il faut que je pardonne à mon mari, etc., etc. Donc c'est des trucs qui passent maintenant tous les jours, sans, je sais pas comment je peux dire, ça fait partie de mon quotidien. Et psychologiquement parlant, je sais pas comment je peux me départir de ça. Ça me fait manquer d'assurance, même dans mon couple, pour prendre la parole et tout. C'est vraiment très oppressant pour moi.
Merci beaucoup, hein, Sophie, pour avoir témoigné. Alors, on va répondre, on va commencer avec par exemple, Sérigne Mordaille. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette femme?
Ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait qu'elle aille dans les associations parce qu'il y a une complicité de l'environnement familial et qui légitime la posture de passivité. Et c'est ça qui est grave. Donc, nos associations établies en Afrique, qui vivent avec peu de ressources, mais avec beaucoup d'engagement, sont les seules voies de salut pour ces femmes. Quotidiennement, en parcourant mon pays, le Sénégal, depuis 3 décennies, je vois que des vies dévastées avec des environnements familiaux qui légitiment et qui soutiennent les agresseurs. C'est ça la problématique. Donc, il nous faut en Afrique développer des associations jusque dans les villages pour que ces femmes-là puissent avoir un espace d'écoute, un espace d'accompagnement et qu'ils les sortent aussi des traumatismes. Parce que les femmes africaines, beaucoup de femmes africaines vivent non seulement l'excision, mais le mariage précoce. Et après le mariage précoce, des accouchements à risque. Où elles laissent leur vie parce que c'est des enfants qui donnent naissance à des enfants. Donc nous sommes dans un contexte dramatique où je fais l'appel à l'humanité. On parle que de politique, on parle que d'argent. Mais si c'est au niveau planétaire, comme disait quelqu'un tout à l'heure, au niveau planétaire, on en faisait une préoccupation en sachant que quand même nous ne pouvons pas vivre ce 21e siècle dans des contextes où il y a des vies dévastées. Et que tout peut être contrarié lorsque les femmes sont dans cette situation-là. Je pense que si on en faisait une question planétaire comme d'autres questions qu'on agite, ben je pense que nous allons évoluer. Donc ce qu'on peut dire aux femmes africaines, c'est de s'organiser, d'être solidaires, d'essayer d'échapper aux idéologies en cours dans notre société, parce qu'elles n'y échappent pas facilement, et que nos associations sur toute l'Afrique puissent continuer ces programmes de prévention et surtout contrecarrer les productions.
Alors je redis, hein, Sérigne Morbaille, que vous êtes psychologue et directeur du Centre de Guidance Infantile Familiale, le CEGID, donc à Dakar au Sénégal. Il y a d'autres associations sur lesquelles ces femmes peuvent se retourner. Par exemple, Violaine Guérin, quel conseil vous pourriez donner à Sophie? Donc on est dans du viol conjugal répété.
Oui, il y a des associations, même au Cameroun, hein. Je salue Blanche Onmessom qui a monté l'association La Colombe, par exemple. Et le fait que justement on se coordonne. Blanche, par exemple, devait venir aux assises. Il y a eu un manque de moyens. Mais là aussi, Stop aux violences sexuelles, en fait, porte un projet mondial. Donc, nous sommes en train aussi d'établir les connexions entre tous les pays. Et sur le site www.stopauxviolencessexuelles.com, on peut tous se connecter. Ça va être l'enjeu planétaire. C'est que, justement, tous les gens qui travaillent sur le sujet se connectent également entre eux. Donc, merci Sophie de témoigner, parce que c'est aussi quand on a ces ouvertures de parole qu'on permet ces connexions.
Stéphanie Mulot, vous avez un conseil à donner à Sophie et à toutes les autres femmes qui sont dans ce cas-là?
Non, mais c'est très difficile de donner des conseils, mais je pense que il faut rappeler qu'il y a des... Partout, il y a des associations. Il y a des femmes et des hommes qui dénoncent ça. C'est-à-dire qu'il faut rappeler aux femmes que quelque part, elles ne sont pas les seules à avoir vécu ça, malheureusement, et que c'est parce qu'il y a des plaintes individuelles, qu'il y a des mobilisations associatives, et qu'il y a des soutiens, des espaces de soutien pour ces femmes, et des espaces d'accueil, et des espaces de prise en charge. Parce que la dernière personne qui a témoigné dit combien ça l'affecte aussi psychologiquement. Donc on voit qu'il y a des effets sur la santé sexuelle, sur la santé physique, sur la santé psychologique, psychique, sur le rapport au travail. Donc, il y a d'autres personnes dans le même cas, c'est ça qu'il faut dire. Et donc, il y a des associations, il y a des espaces d'accueil, il faut y aller.
Il faut oser justement
contribuer à cette mobilisation associative aussi.
Et en libérant effectivement cette parole, Sophie, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous contribuez aussi à aider d'autres femmes à sortir de leur silence et à affirmer vraiment ce qu'elles sont en train de vivre pour essayer de se sauver, sauver leur peau. Parce que justement, on va terminer avec un hommage à Mariama K, elle qui est morte, hein, décédée dans la nuit de vendredi 29 au samedi 30 décembre. C'était vraiment une défenestration, hein, dans la ville de Montreuil en région parisienne. Et il y a une marche silencieuse qui est prévue cet après-midi à Montreuil, c'est à 17h, pour rendre hommage à Mariama et cette victime des violences faites aux femmes. Et donc, pour en parler, nous avons Ernestine René. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes du département, hein, de la Seine-Saint-Denis. Alors, effectivement, on va rappeler quand même chaque année en France plus d'une 120 femmes, hein, qui ont été tuées par leur compagnon, leur ex-compagnon ou leur amant. C'est des chiffres effectivement énormes. Comment on peut peut-être rappeler juste un peu les faits dans le cas de la mort de Mariama, parce que toutes ces violences, à un moment, on ne sait pas à quel moment ça peut basculer et être fatal.
Absolument, Mariama, en tout cas, a été tuée après avoir subi des coups de couteau et donc avoir été défenestrée. Donc c'est quelque chose d'épouvantable, on ne peut pas le dire autrement. Moi, ce que je voudrais dire, et qui me paraît extrêmement important, c'est que, effectivement, lorsqu'on est victime, d'une part, il faut chercher de l'aide, et nous avons besoin, en tant que politique publique, de mieux former les professionnels pour qu'ils puissent permettre aux femmes de révéler les violences qu'elles subissent. C'est-à-dire que c'est pas seulement les femmes qui doivent parler, mais c'est aussi les professionnels qui doivent être formés à susciter cette parole pour qu'elles puissent trouver de l'aide.
Alors, il y a trouver de l'aide, mais aussi évaluer la situation, évaluer le danger. Comment est-ce qu'on fait
absolument.
Ça?
Oui. Bien, je pense que d'abord, il faut que les sociétés prennent conscience de la dangerosité des hommes violents. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de petits faits qui s'accumulent et qui vont monter en puissance. Et il peut y avoir un fait extrêmement grave. Et là, il faut, bien sûr, le prendre très au sérieux. Mais je pense que la seule solution, c'est de croire les femmes et de croire quand elles disent qu'elles ont peur, qu'elles veulent, qu'elles sentent qu'elles sont en danger. Et je pense que nos sociétés ne prennent pas suffisamment encore en compte la parole des femmes.
Parce que celle-là, elle est souvent même minimisée, non, Violaine Guérin? On les croit pas vraiment, on est quand même dans le déni de cette violence.
Oui, on a du mal à la voir, cette violence. Donc il y a ce déni. Et effectivement, Madame René souligne le sujet tout à fait fondamental. Il faut que dans tous les secteurs, les gens soient formés, et que ce soit les policiers, les gendarmes, les thérapeutes, les médecins, les journalistes même, tout le monde, sur ce sujet de la violence sexuelle. Il y a une grande carence
de formation. En tout cas, en Seine-Saint-Denis, vous faites beaucoup de choses, il faut le dire. Par exemple, vous avez mis en place, il y a des moyens de protection aussi que vous avez essayé de mettre en place. Il y a ce téléphone grave danger, vous pouvez nous en parler?
Que nous avons inventé donc en Seine-Saint-Denis, qui est généralisé à la France entière aujourd'hui. Il s'agit d'un téléphone ordinaire qui a une petite touche. Quand la dame appuie, elle est mise en relation avec un téléassisteur. Si elle dit « il est en bas, j'ai peur », la police se déplace tout de suite. Et c'est parce qu'il est remis par le procureur de la République à la femme en danger. Donc l'idée de penser le danger avant la commission de nouveaux faits de violence, c'est ce que nous sommes en train de faire avec le téléphone grave danger, avec l'ordonnance de protection. Et je pense que les moyens existent. Maintenant, il faut qu'ils soient davantage mis en œuvre. Et ça, évidemment, ça demande des formations, des professionnels, policiers, gendarmes et également, bien sûr, professionnels de santé, magistrats.
Donc développer aussi ces permanences d'écoute, d'accueil, parce que on voit une femme qui est quand même perdue, piégée, mal en point, d'aller parler, c'est un sacré effort important. Hein.
Oui, il faut qu'il y ait du soutien, c'est très important, et également un travail avec des équipes multidisciplinaires, c'est fondamental.
Pour terminer, Ernestine René, votre message.
Excusez-moi, elle a souvent déjà voulu parler. Et souvent, elles disent, mais personne ne veut nous entendre. C'est pour ça que je parle de la formation des professionnels. Mmh. Elle a été voir son médecin traitant parce qu'elle a mal au ventre, parce qu'elle a mal au dos. Elle a été aux urgences parce qu'elle n'en peut plus, etc. Et c'est là où les professionnels doivent être davantage formés pour mieux prendre en compte la dangerosité des hommes violents.
Merci beaucoup, Ernestine René, donc responsable de l'Observatoire départemental envers des violences envers les femmes du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Il y a donc cette marche silencieuse pour Mariama cet après-midi à 17h. Merci au docteur Violaine Guérin, endocrinologue et gynécologue. Stop aux violences sexuelles, si vous êtes présidente de cette association. Merci à Stéphanie Mulot, sociologue en direct depuis Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et merci à toute l'équipe de Priorité Santé qui chaque jour fabrique cette émission. Demain dans Priorité Santé, eh bien, on continuera de parler de la sexualité. Toutes les questions que vous n'osez pas poser, le docteur Catherine Solano sera là pour vous répondre. On attend vos témoignages au 33 1 84 22 75 75. À demain.
Priorité Santé avec Sounou Assurance qui vous souhaite une bonne et heureuse année pleine d'assurance. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.